Pendant que j'étais assis là, il se passait beaucoup de choses, comme toujours. Et je me suis souvenu de quelque chose que j'ai lu, je crois que c'est ce matin, dans un journal, à propos d'un expo en ce moment au musée Picasso, qui est Picasso et Giacometti, deux artistes. Et quand j'avais su que cette expo se tenait, j'étais très intriguée, parce que je connais assez bien Giacometti, j'ai beaucoup étudié, et je sais qu'ils n'étaient pas vraiment liés, les deux. Ils se connaissaient dans les années 30, je crois, à Paris, mais sans plus, et leur travail ne se ressemble pas vraiment. Et les deux hommes étaient très différents, comme personnalité, etc. Donc, j'étais intriguée par ça. Et donc j'ai lu cet article sur ça ce matin, où le journaliste faisait un peu cette même réflexion. Et disons que quand même ils avaient quelques choses en commun. Parmi les choses, c'était une quête constant qui les amenait vers l'être, être, et que chacun manifestait cette quête à sa façon. Et la façon de Picasso, c'était le tout, l'abondance, la jouissance, les femmes avec des gros seins et des énormes fesses, des couleurs, des formes invraisemblable, etc. Et Giacometti, c'était d'une certaine façon le contraire, c'était le rien. La couleur, c'était gris. Et il enlevait tout. Jusqu'au point où il ne restait pratiquement rien. Je ne sais pas si vous visualisez un peu les statues, les sculptures de Giacometti, c'est très caractéristique. Une certaine sorte de sculpture de Giacometti. Cet homme très allongé, comme ça. Et quand j'étais assis, j'avais un peu cette même impression avec l'inspire, quand j'inspirais, c'était comme si c'était le tout. C'était la plénitude. Et quand j'expirais, c'était rien. Tout était enlevé. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a côté pile et face, en fait. C'est deux faces du même chose, si vous voulez, qui est être. Personnellement, j'ai plus d'attirance vers le rien de Giacometti que le tout de Picasso. C'est juste une affinité personnelle. Je peux apprécier Picasso, je peux apprécier ce qu'il fait, son génie, parce que c'est vraiment un génie, Picasso. Mais j'ai plus d'affinité en tant qu'artiste aussi, en tant que poète, je suis plus liée avec Giacometti. En même temps, souvent dans cette pratique, on parle du vide. je sais pas si vous avez entendu les trucs d'acuité, c'est un peu stéréotypé, de... il n'y a rien, c'est pas nihiliste, mais presque. Ça, on entend ça comme étant nihiliste. Et un jour, quand je discutais avec mon maître, et je disais que je ne comprenais pas du tout quand on entendait parler dans les trucs zen du vide. Je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. Et elle me disait, mais si, tu sais, tu vois très bien ce que c'est. Et j'avais un peu honte. J'étais un peu embarrassée de le décevoir parce qu'elle avait l'impression que je savais et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et j'ai avoué que non, elle croyait que je savais, mais non. Et je ne voulais pas lui donner l'impression que je savais quelque chose que je ne savais pas. Elle me dit, mais si, mais tu m'as raconté ceci ou cela. Elle me raconte une expérience, quelque chose que je lui ai raconté. Et c'était vrai ce que j'avais raconté, mais j'ai dit, mais non, mais ça, c'est pas vide, c'est plein. Ce que j'ai décrit là, c'est plein, c'est la plénitude. Et elle me dit, bah, c'est la même chose. Alors là, ça a changé quelque chose pour moi. Parce qu'en fait, c'est vrai. Et si on prend l'exemple de Picasso et Giacometti, qui ils étaient devant leur tableau, ils étaient devant leur sculpture, devant je ne sais pas quoi, leur art. Et plus ils se mettaient à travailler, créer, etc., plus le sens leur échappait, dans le sens que de quoi il s'agit. Le questionnement de quoi il s'agit. Pourquoi mettre quelque chose sur un tableau? Pourquoi créer une sculpture? Pourquoi s'asseoir sur un coussin? Pourquoi faire ce qu'on fait, en fait? Si tout disparaît, Giacometti, son expérience, c'était que chaque jour, il se mettait devant sa modèle, souvent c'était sa femme ou son frère, et ça avait changé. C'était pas la même position, la même lumière, la même personne qui voyait la veille. Et donc, il détruisait ce qu'il avait fait la veille, il recommençait. Chaque jour, il recommençait parce que c'était différent à chaque fois. Et même parfois, s'il commençait l'après-midi, le soir, il continuait, ça avait changé entre-temps. On peut imaginer que Picasso voyait la même chose. Ça changeait tout le temps. Sa réponse à Picasso, c'était de continuer à le renouveler avec la jeunesse, la plénitude, la jouissance de ça, d'apprécier pleinement la chose. La réponse de Giacometti, c'était « Ah bah, il faut recommencer. » Et donc, c'est jamais fini. Pour Picasso, c'était jamais fini non plus, parce que ça recommençait toujours la jouissance, l'amour, la plénitude, etc. Mais ils avaient chacun leur façon de faire. Quand tu respires, je raconte que j'ai eu cette expérience, j'ai fait le rapprochement quand je respirais. C'est vrai que inspire plein, merveilleux, riche, etc. Bah ça, c'est fini, ça part, ça disparaît, à jamais. Et dans cette absence de respiration, c'est aussi plein. C'est plein de non-respiration, disons. Et puis, il y a un nouveau. Et ça recommence. C'est vrai que c'est complètement rien, cet expire, et c'est complètement tout, l'inspire. Et vice-versa. Parce que cet inspire, c'est aussi rien, c'est pas fixe. On ne peut pas se figer sur quelque chose. Et cet expire, c'est aussi plein. c'est plein de ce que c'est, juste de ce que c'est. Et la seule façon, on vit pleinement quand on peut s'apprécier ces deux aspects. C'est là que notre vie prend son ampleur naturelle. Parce que c'est les deux aspects de l'être. Et ça peut s'exprimer en respirant et en expirant, ça peut s'exprimer en écrivant un poème, ça peut en faisant la sculpture, en marchant dans la rue, en faisant la cuisine, en discutant avec quelqu'un. Enfin, c'est à chaque instant. Chaque instant, vraiment, chaque instant, chaque instant. Je lisais aussi, là je lis beaucoup, un article sur Leonard Cohen, le chanteur canadien, qui a 80 et quelques aujourd'hui, et qui, apparemment, quand il était jeune, au début de sa carrière, c'était la fin des années 60, il était très mal à l'aise sur scène. D'ailleurs, il chantait pas vraiment devant le public. Ou à la limite, dans un bar, devant quelques personnes. Mais un jour, il était invité à un grand concert à New York, à chanter, pour les bénéfices contre les guerres au Vietnam, ou un truc comme ça. Donc, c'était une bonne cause. Une chanteuse américaine, Judy Collins, l'avait invité, etc. Il ne voulait pas, mais elle l'a convaincu de le faire. Et donc, il sort sur scène devant tous ces gens. Et il commence à chanter sa chanson célèbre de l'époque, Suzanne. Et soudain, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et il s'excusait devant le public. Il dit, désolé, je ne peux pas. Ça ne va pas du tout. Je ne suis pas, je ne peux pas du tout. Il est sorti sur scène. Et la chanteuse qui l'avait invité, elle dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire. Quelque chose de l'ordre, je ne suis jamais aussi bon que je pense que je veux être. C'est jamais ce que je veux être. Et elle a dit, oui, c'est vrai pour tout le monde. Il dit, et donc je ne vais pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et elle lui a dit, oui, tu ne peux pas le faire, mais tu vas le faire. Et finalement, il l'a fait. Il est revenu sur scène et il a raconté au public ce qu'il avait dit, ce qu'il sentait, et il l'a fait. Je trouve ça incroyable, ce gars-là. Quelle honnêteté, quelle... C'est pas étonnant d'ailleurs, parce que maintenant, quand on voit ce qu'il fait avec sa musique et ses paroles, etc., c'est quelqu'un de profondément spirituel et juste, et tellement en phase avec le public quand il chante en live, etc. Mais c'est le fait qu'il dit « je ne suis jamais ce que je pense être », c'est aussi être en contact avec ce plein et vide, dans le sens que la seule façon de vraiment être en contact avec le plein, c'est d'oublier, c'est de reconnaître le vide et le plein, et juste être avec. Donc il va juste sur scène, il va chanter. Quand il le fait, juste le faire, sans une idée de comment il doit chanter, ou comment il aimerait chanter, ou quel effet, le fait qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Quand il n'est pas accaparé par ça, et il le fait, ça va. Là, il est pleinement là. Et en même temps, c'est complètement impermanent. c'est comme être sur la tête d'une épingle, non? On a pinhead, sur une aiguille. C'est comme essayer de se tenir sur une aiguille. Si on se focalise trop sur le plein, on va basculer dans le plein et on va pas voir le rien. Si on focalise trop sur le rien, on va plus, il va pas chanter, il peut pas. Et donc, il faut reconnaître qu'il ne peut pas. Il peut pas, comme elle l'a dit. C'est vrai. Tu peux pas. Et en même temps, se donner pleinement à ça, de le faire quand même. Parce que c'est l'histoire de notre vie, en fait. On sait qu'on va mourir, mais on s'y donne quand même. On vit quand même. Sur le coussin, c'est ça. Bon. On n'a qu'une envie parfois, c'est que cette cloche sonne. Mais l'astuce, c'est que moins on se focalise sur putain, quand est-ce que cette cloche va sonner, mieux on est. Même si on a très envie que la cloche sonne, mais on intègre cette envie et on reste là. Quand je me suis mis au début, je me sentais bien parce que j'étais dans une retraite jusqu'à mercredi et revenir à Paris mercredi soir, et puis hier c'était un tornade hier, et puis aujourd'hui j'avais plein de trucs à faire, etc. Et donc là, juste m'asseoir, c'était bien, j'étais très content. Et puis cette pensée m'est venue à propos de Leonard Cohen, et je me suis dit, ah oui, mais ce ne sera jamais aussi bien que je pense. Ce ne sera jamais aussi bon que je veux que ce soit, m'asseoir là. Ce qui était absurde, d'avoir cette pensée, mais les pensées sont absurdes parfois, hein, je reconnais. Mais quand je regarde ça maintenant, je me dis, mais c'était absurde d'avoir cette pensée, parce que toujours t'es bien. Pourquoi avoir cette pensée que ça ne peut jamais être aussi bien? Je pense que c'était une sorte de test. Je me testais d'une façon inconsciente. Pour voir si... non, je ne sais pas si c'était un test, mais en fait, ça opérait un peu comme un test, parce que ça m'a fait sentir que oui, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et puis bon, ça aussi, c'était fugace. Après, je ne pensais plus, oui, c'est vraiment bien. C'était juste autre chose. Donc... voilà ce qui se passait pour moi pendant ces 40 minutes.
C'était très animé.
Très animé, c'est ça. Très animé. Mais j'ai eu une expérience là, pendant la retraite, pendant 8 heures, tous les jours, on s'assoit. Et après 2 jours, je crois, peut-être, oui, après 2 jours, un après-midi, bon, pendant 2 heures, c'était mais invraisemblable. J'étais, mon esprit était partout, je pensais à tout et rien, et dans tous les sens. Et chaque fois que j'essayais de revenir, ok, bien, puis ça recommençait. Et sans aucune, je n'ai aucune explication pour ça. Parce que, soi-disant, après 2 jours, je devais être bien posé, bien calme, etc. Mais, c'était intéressant d'observer ça. C'est le prof, c'est impermanent. Et ça fait partie de l'être. Donc, J'accueille. Je restais avec. Voilà. Est-ce que vous avez des choses, des questions, des commentaires, des participations à ajouter?
Oui, je me disais, je trouve ça très, très bien et notamment pour vous qui n'avez pas forcément beaucoup l'habitude de voir que même après 20 ans, 30 ans, c'est pas, on a toujours cette idée qu'on fait le vide et qu'il ne se passe rien justement et que c'est là le truc ultime sur lequel ultimement on va finir par arriver. Des méditations où il n'y a plus de pensée et plus rien, c'est pas du tout ça qui se passe. Non. Parfois c'est ça, et parfois, plus souvent d'ailleurs, c'est pas du tout ça. En revanche, je trouve la stratégie. J'ai vu une vidéo d'un moine tibétain l'autre jour qui parlait du monkey mind et qui disait pour il faut avoir, tu l'as vu cette vidéo? Non, t'as pas vu passer. Il faut avoir une stratégie, et la stratégie donc, pour chanter en fait le monkey mind, c'est les exercices qu'on fait, revenir à la respiration, et c'est, ça chante,
ça veut dire quoi?
Enfin, ça court-circuite, c'est on se met dans, ouais. C'est le dispositif en fait, c'est notre stratégie, ouais. Le dispositif, il y a plein de dispositifs qui existent, mais que ça c'est notre dispositif.
Oui, car ça n'enlève rien, ça ne va pas les éliminer, mais ça nous permet de revenir et ne pas être accaparé par ça.
C'est dur d'être dans cette
c'est dur.
Mercredi, je vais m'asseoir et c'était 2 heures de passer en revue tout. Enfin, tu ne peux plus raconter que quelqu'un était venu sans explication et qui avait fait du rangement dans ses dossiers pendant les 2 heures. Là, c'était quasiment ça et je revenais, j'allais pas un, j'arrivais à un. Quand même de temps en temps. Je voyais que ça était. À la fin, dans des moments comme ça, ça ne sert à rien de venir s'asseoir. En même temps, on ne peut pas le prévoir. Et en même temps, ça fait partie. En même temps, c'est ça aussi.
Ah oui, c'est ça.
Mais c'était de voir qu'on est. Enfin, c'est de se sentir parfois complètement impuissant. Face à ce mouvement, à ce monkey mind. Et dans ce moment-là, tout ce que moi j'arrive à faire, c'est l'observer. J'arrive pas à être à revenir à la respiration. Je vois juste que ça part dans tous les sens et je laisse faire.
Bah, déjà, c'est énorme ça, de pouvoir observer ça et laisser faire. Enfin, plutôt que d'essayer de dire non, il ne faut pas penser ça, il faut contrôler, il faut. C'est non, ou même pas voir, parce que parfois on ne voit même pas. On croit qu'on est en train de méditer quand on est en train de ranger ce dossier. Ouais.
Mais parfois on se dit en rentrant, j'aurais pu passer la journée, la soirée à la maison. Plutôt que.
Et là, quand on a ces pensées-là, c'est qu'on est, on reste dans une notion quoi, matérialiste de la méditation, que ça doit nous amener quelque chose, ça doit faire quelque chose. C'est un produit. Mais en même temps, quelqu'un m'a posé cette question, soit en Portugal, j'ai fait une conférence, et quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que, après tant d'années, etc., qu'est-ce que ça vous a apporté, cette pratique, etc. Bon, je peux dire, mais ça, ce sera la réponse super zen, rien. Mais c'est pas vraiment dans un contexte comme ça, quand quelqu'un me pose ce genre de questions, je préfère essayer de le rencontrer là où elle est et dire quelque chose qui peut qu'elle peut comprendre, disons. Qui revient aux mêmes choses, mais alors j'avais dit, bah, ça par exemple, ce soir, ça m'a permis de passer la porte de cet endroit. Je ne savais absolument pas ce qui était de l'autre côté de cette porte quand je rentrais dans cette salle de méditation. Je ne savais pas qui allait être là, je ne savais pas combien de gens, je ne savais pas comment ça allait dérouler. Je ne savais pas ce que moi j'allais dire. Je savais qu'on était censé faire une période de méditation et puis une conférence. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas si j'allais être sur une chaise ou sur un coussin. Je ne savais pas si j'allais offrir de l'encens. Je ne savais rien. Et en plus, c'était dans un pays étranger, avec des gens, je ne savais pas s'ils parlaient anglais ou français. Donc, l'inconnu total. Et pourtant, j'ai pu ouvrir cette porte et passer le seuil sans angoisse. C'est comme si et autrefois j'aurais été très angoissée par cette perspective, et peut-être à un autre moment j'aurais été angoissée par l'inconnu, mais toute cette pratique de s'asseoir et accueillir l'inconnu, parce que c'est toujours inconnu, hein, ce qui va se passer là maintenant. Avec des années, des années, des années de ça, mais ça peut être juste 5 minutes de ça. Il y a une confiance qui se gagne, disons. Ce qui fait que il n'y a pas d'inquiétude. Je n'ai pas la même inquiétude face à l'instant, face à l'inconnu que j'avais auparavant. Donc s'il y a des... quelque chose comme ça m'a apporté, ça m'a apporté ça dans cet instant-là. Je pense que c'était mieux comme réponse que de dire rien. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça ne m'apporte rien. Mais le fait de le faire me permet d'expérimenter le monde autrement. Le monde, l'instant, ce qui est autrement que si je n'avais pas fait. C'est un peu comme Leonard Cohen allant sur scène, terrifié par le fait que ce ne sera jamais ce qui... Il ne sera jamais aussi bon qu'il pense. Je pense que maintenant, quand on le voit sur scène, on voit un type qui est complètement à l'aise là. Bon, probablement il a la traque, le truc, etc. Mais je pense que c'est plus pareil. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup... Il est moine zen, il a vécu dans un monastère, il a beaucoup pratiqué, disons. Beaucoup, il a fait beaucoup d'assises, disons. Et il a fait d'autres choses aussi, hein. Il est très engagé dans le judaïsme mystique, d'autres choses. C'est-à-dire qu'il a une assise dans son être. C'est ça qui est important. Peu importe la tradition, etc. C'est avoir une assise dans son être.
Peut-être. plutôt que de parler de rien, ça apporte rien, ça, en fait, c'est processus de dénuement. On abandonne des choses.
Oui, peut-être.
On abandonne des choses, et le fait de s'abandonner, ça libère. C'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est qu'on s'est dépouillé de tout un ensemble de choses qui sont pesants, et notamment tous les jugements qu'on a par rapport à nous-mêmes, qui génèrent le trac, qui génèrent l'angoisse, qui génèrent... d'être dans cette dynamique sans arrêt de... On voit ça, on est capable de voir, ce que je dis, au moins on est capable de le voir, et deux, on est capable de le lâcher pour revenir, ben ça c'est une libération, donc c'est rien, mais en fait, parce qu'on... On enlève toutes ces peaux-là progressivement, quoi. Et ça revient.
Et on recommence.
Et ça, voilà,
c'est sans fin.
Et c'est pour ça que j'imagine que vous pratiquez aujourd'hui après autant de pratiques de façon comme si c'était la première fois, certainement.
Oui, c'est mon inspiration. Tout à fait. Oui, c'est comme si, oui, on dit qu'on est tous débutants, en fait. Mais effectivement, avec plus de pratiques, ça devient plus costaud de revenir, de recommencer comme débutant. Parce qu'on est tellement habitué à certains fonctionnements, etc., il faut les lâcher. C'est pour ça que cette fraîcheur de débutant, effectivement, c'est là à chaque instant, mais quand on est encombré avec tout ce qu'on a fait, c'est difficile.
Et on s'encombre nous-mêmes, du coup, même après, on est obligé de retrouver ça, parce qu'on s'encombre en se disant, ça à chaque retraite, les questions de la forme, ceux qui finissent par être bloqués sur les formes, etc. C'est les sédimentations qu'il faut à chaque fois retravailler, parce que ça arrive par vagues tout le temps.
Je crois que ce soir, quand je me suis assise et je me suis dit ah, c'est bien, c'était vraiment quelque chose de l'esprit du débutant là, quand j'ai apprécié ça comme ça. C'était frais, c'était une fraîcheur. Et puis, la vieille pratiquante, c'est celui qui est venu en disant ah, non, mais c'est pas encore ça. Ou un truc comme ça. Je sais pas exactement ce qui était dit, mais. Mais je trouve, moi, mon expérience, c'est que naturellement, c'est frais. Nature, c'est frais. Mais je m'encombre, j'ajoute, etc. Je m'attache à certaines choses et non, c'est plus frais.
C'est ça, quand on s'attache.
Oui, c'est ça. Et bon, on accueille ça aussi.
J'avais encore une question, pardon. Un truc qui me revient de c'est pas très clair dans mon esprit, mais de, je sais pas, c'était pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, sur quelque chose qui a été redit là sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que ça rend libre?
Qu'est-ce que
le fait de questionner et de s'asseoir en permanence?
Permanence, ça, je sais pas.
Ce que je voudrais dire, c'est ça apporte, on lâche, on se libère. Mais en fait, sur le coussin, coupé, du coup, d'une certaine façon, de la vie est telle qu'elle est à ce moment-là, mais de ce qui se passe dehors. Du coup, qui est dans un engagement permanent avec l'autre, avec l'environnement, on est juste assis à ce moment-là. Et si on est dans une pratique poussée, où on s'assoit de plus en plus, et parfois on ne fait que ça, pour certaines personnes qui deviennent moines, cette liberté, elle ne s'exprime du coup que sur le coussin. Ou elle n'est vécue que dans le cadre du monastère ou de l'assise ou et du coup cette liberté elle se fait au détriment d'une certaine façon, je suis pas sûre je pousse un peu à l'extrême ma réflexion, je suis pas sûre de croire complètement, mais c'est un peu l'avocat du diable. On est coupé de la vie engagée dans un environnement.
Alors, je comprends son logique. Au même temps, c'est pas vraiment ça, parce que, bon, je n'ai jamais vécu dans un monastère, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Mais même, entre guillemets, dans un monastère, ils ont des interactions les uns les autres. Ils mangent, ils nettoient la cuisine, enfin, ils ont une vie, entre guillemets. Ils sont pas 24 heures sur 24 sur leur coussin. Et même s'ils étaient, ils sont quand même avec d'autres. Même un ermite dans une grotte quelque part est en contact avec d'autres organismes, d'autres manifestations de vie. Que ce soit les insectes, que ce soit les éléments, la pluie, le soleil, etc. Et en son propre corps, disons. Donc c'est jusqu'où on va dire, où est-ce qu'on fait la frontière entre être engagé dans la vie et pas. Bon, moi je pousse un peu dans l'autre sens. Pour dire que oui, effectivement, là sur le coussin, c'est un environnement contrôlé, comme on dit dans les sciences. C'est, on va créer quelque chose, on va tester un laboratoire dans lequel on va tester les choses, ou comme une salle de répétition pour un danseur ou pour un musicien, choses comme ça. Ou pour un écrivain, ses cahiers, qui sont, c'est pas ça qui va être édité. J'ai toujours des exemples de science ou art, il y en a d'autres hein, certainement, mais et s'asseoir c'est comme ça, c'est un entraînement quoi, c'est un entraînement disons, on s'entraîne, et quand on se lève, le moment de vérité effectivement c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus assis. C'est là où on voit la qualité de la pratique de quelqu'un. Parce que le plus difficile, c'est la réalisation. C'est incarner ce qu'on fait là. C'est le plus difficile. Car effectivement, là c'est contrôlé, il n'y a rien. Enfin, on n'est pas en train de s'engueuler, on n'a pas la pression d'un résultat. Le temps, effectivement, il y a du temps, mais on n'est pas en train de dire « vas-y, plus vite, plus vite, plus vite ». Toutes sortes de choses qui n'existent pas, enfin, qui existent, mais sur lesquelles on n'est pas confronté directement ici. Tandis qu'on là-bas, c'est autre chose. Et donc, c'est ça le défi. C'est très bien de s'asseoir, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se lève? C'est pour ça qu'on fait la méditation marchant. C'est symboliquement, c'est on met ça en action. Ou pendant les retraites, on va faire la cuisine ensemble, on va faire le ménage ensemble, faire différentes choses, ce qu'on a à faire, nettoyer les toilettes, etc. Et il y a une différence qui, par exemple, à la fin de la retraite en été, j'aime bien faire une fête. Et j'aime bien que les gens participent et donnent quelque chose, chanter, danser, raconter les vannes, je ne sais pas, différentes choses. Et ce n'est pas le même show que ça aurait été au début de la semaine. Ce n'est pas du tout pareil. C'est une façon d'incarner tout ce qu'on a fait pendant la semaine. Et de le partager. Parce que c'est là ce qui compte, c'est le partage. De manifester et partager. Donc, je ne sais pas exactement si ce que tu voulais, John voulait venir, mais c'est vrai que c'est important d'incarner, d'actualiser. C'est pour ça qu'on dit, on chante dans les chants, etc. Rencontrer l'absolu n'est pas encore l'éveil. On va tout de suite croire que, ah oui, on va à l'unité de toute chose, tout est parfait, la plénitude, etc. Et on va croire que c'est ça. C'est ça ce qui est recherché, et il faut vivre tout le temps avec ça en tête. Mais c'est pas ça. C'est un aspect. Il y a les deux aspects de la vie. Et ce qui est la vraie libération, entre guillemets, puisqu'on parle de libération, c'est de les vivre tous les deux ensemble.
On en revient au début.
Quoi ?
On en revient à ce que tu disais.
Exactement. C'est ça. Donc c'est une bonne façon de terminer, parce qu'on revient au début. Ok. Merci.